Alors ce dimanche, nous allons parler des vocations. Le mot est un peu désuet, il faut le reconnaître. Mais il est encore utilisé aujourd'hui. Vocation. Avant peut-être d'introduire le message que j'ai sur le cœur, j'aimerais dire deux choses concernant même ce mot. Alors comme bien de nos mots, on se réfère à l'étymologie, et ici c'est l'étymologie plutôt latine, vocation, vocare, appeler, vocatio, l'appel. Et donc c'est vrai que pendant très longtemps, le mot a pris une connotation essentiellement religieuse pour évoquer l'appel au sens du choix de Dieu adressé à quelques-uns pour remplir une mission particulière. On parle de la vocation d'Abraham, appelé à quitter son pays pour aller vers un autre, vers lui, et devenir par ce mouvement de la foi, confiance, le père des croyants. On parle de la vocation de Moïse, libérateur du peuple de Dieu, de la vocation d'Ésaïe. Et c'est vrai que la Bible est remplie de textes de vocation, c'est-à-dire de textes où quelqu'un entend l'appel de Dieu, des hommes, des femmes, et quel que soit d'ailleurs leur âge. On se souvient du jeune Samuel qui ne connaissait même pas encore reconnaître la voix de Dieu, mais qui entend Dieu l'appeler « Samuel, Samuel, Samuel !» et qui se lève dans la nuit et va vers Élie. Et il a appris à reconnaître la voix de Dieu. On se souvient d'un Jérémie tremblant parce qu'il est jeune, devant le vertige de l'appel de Dieu. Et Dieu lui dit « Ne tremble pas !» Ézéchiel, pareillement, l'appel nous fait peur, l'appel nous impressionne. Mais l'appel, ce n'est pas simplement un appel extérieur. C'est aussi, et voilà le deuxième sens qu'on trouve dans les dictionnaires, c'est aussi souvent cette inclination du cœur, ce mouvement intérieur que vous pressentez ou ressentez comme impérieux, comme quelque chose qui vous pousse vers une direction, malgré vos luttes. Et puis, il faut aussi dire que la notion de vocation s'est élargie au-delà même du domaine religieux. On parle d'une vocation artistique, par exemple, pour des personnes qui sont tournées complètement depuis tout petit, peut-être, dans l'écriture, dans la musique, dans la peinture, qui ont des talents manifeste, remarquable dans tel ou tel domaine. On parle de vocation d'infirmière, d'infirmier, de médecin, de vocation d'enseignant, de vocation parentale, etc. La vocation n'est donc pas un thème exclusivement religieux. Et cela aura toute son importance pour notre réflexion. Parce que voyez-vous, la vidéo que nous venons de voir pourrait suggérer que la vocation ne concerne que celles et ceux qui auraient l'appel à se former théologiquement, à passer 3, 5 ans ou plus dans des institutions de formation théologique. Je veux nous convaincre ce matin que tous, autant que nous sommes appelés de Dieu. Nous avons une vocation. Peu importe la saison de ta vie, peu importe ton âge, nous avons une vocation. Et peut-être vous vivez dans votre vocation sans le savoir intentionnellement. Et mon objectif ce matin, c'est d'essayer de nous donner la confiance pour être intentionnel dans la vocation que le Seigneur nous a confiée. Le Seigneur Jésus nous pousse dans un texte que nous allons méditer maintenant, au chapitre 9 de l'Évangile de Matthieu, les versets 35 à 38, à l'écoute de sa parole. Nous lisons, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut ému, car elles étaient laissées et abattues comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors, Il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le cœur de Jésus face à une moisson négligée. Quelques propos d'introduction. Le cœur de Jésus face à une moisson négligée. Ce passage de l'évangile de Matthieu est à la charnière des chapitres 9 et chapitre 10. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, il a organisé son évangile autour de 5 grands discours. Le premier discours est souvent celui qu'on connaît le plus, c'est les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu, qu'on appelle le sermon sur la montagne. Dans le sermon sur la montagne, Jésus vient d'enseigner sur l'identité des enfants, des fils et des filles du royaume. Heureux, vous qui êtes heureux, heureux, heureux. Il décline le portrait des enfants et des fils du royaume. Il donne en quelque sorte, comme Moïse avait donné les 10 paroles de la part du Seigneur, il donne en quelque sorte une charte du royaume. Et au chapitre 8 et 9, nous voyons Jésus sillonner justement les villages et les villes jusqu'à Génézareth, où il chasse des démons. Et puis il revient dans sa ville au chapitre 9, au tout début du chapitre 9. Et tout au long de cette journée où Matthieu a compilé les faits et gestes de Jésus, on voit Jésus à l'œuvre. Jésus guérit un paralytique. Jésus libère un homme d'un démon qui le rendait en plus muet. Jésus est appelé au secours par un chef religieux dont la petite fille vient de décéder. En se rendant, une femme par la foi touche le pan de sa robe, elle qui perdait du sang depuis 12 ans, et elle est guérie, et Jésus lui dit, ta foi t'a guérie, etc. Jésus appelle Matthieu, derrière sa table de collecteur d'impôts, en disant, suis-moi et va manger chez Matthieu avec d'autres collecteurs d'impôts. Et dans ce contexte-là, où on voit Jésus en train de remplir un ministère de bénédiction, un ministère de guérison, un ministère de délivrance, ses opposants scribes et pharisiens, eux n'y voient que des polémiques, des occasions à rentrer en dispute, en controverse. Si cet homme était vraiment le Messie, il gênerait comme nous et les disciples de Jean-Baptiste. Polémique sur le jeûne. Si cet homme était vraiment le Messie, mais il ne mangerait pas avec des gens de mauvaise vie. Polémique sur l'éthique, sur la morale de Jésus. Si cet homme. Et Jésus leur dit une parole qui a quelque chose qui nous révèle son cœur. Jésus leur dit, vous devez apprendre cette parole qui dit, je prends plaisir non pas dans les sacrifices, mais dans la miséricorde. Dans la bienveillance, allez apprendre ce que signifie cette parole. Jésus est en train de leur dire que son ministère, tout son cœur battant, est animé de compassion et de miséricorde. Sa mission, ce n'est pas pour se faire voir, ce n'est pas pour se montrer, ce n'est pas pour impressionner. Sa mission consiste à amener le cœur du Père au cœur de l'humanité. Et le cœur de Jésus est en peine parce qu'il voit la moisson, c'est-à-dire le monde, et les hommes et les femmes de notre monde négligés dans leurs besoins fondamentaux. Jésus est en colère parce que celles et ceux qui auraient dû être des ouvriers en train de s'occuper de cette moisson l'ont négligée. Ils n'ont pas appris la compassion des âmes. Ils n'ont pas appris la compassion des cœurs. Ils sont enfermés dans leur dogmatisme, dans leur légalisme, et ils laissent la moisson abandonnée. Alors Jésus a cette parole qui introduit d'ailleurs le chapitre 10, parce qu'au chapitre 10, c'est l'envoi des 12, l'appel des 12 et l'envoi des 12 dans Matthieu. Dans les synoptiques, vous pouvez avoir l'envoi des 70 également. Jésus n'accepte pas que la moisson du Père soit négligée. Jésus est ému de miséricorde, de compassion, et il compare ces hommes, ces femmes cabossées, ces cœurs brisés, ces vies endeuillées, amputées, ces vies souffrantes, en un mot, il voit ici les vulnérabilités de ces hommes et de ces femmes et il les compare à des brebis sans berger. Alors pour nous, l'image n'est plus peut-être la première chose à laquelle on aurait pensé, mais on pourrait dire que c'est comme si Jésus voit des enfants sans parents. Des tout petits sans parents qui s'en occupent, qui les touchent, qui les prend affectivement, qui les soigne, qui les aide à marcher et qui les fait grandir. Le berger vit avec son troupeau. Le berger, dit Jésus dans Jean 10, il aime chacune de ses brebis. Il ne détourne pas le regard des brebis. Le berger, dit Jésus, dans Jean 10 toujours, est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Et ce que Jésus voit, c'est une foule abandonnée. Et alors, un cri s'élève de son cœur. Mais c'est un cri d'amour. La moisson est grande, mes amis, dit Jésus. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Ce cri a traversé les siècles et chaque génération de chrétiens qui a entendu et qui a pris à cœur ce cri a été amenée à se poser la question, sommes-nous encore des ouvriers dans la moisson? Et c'est notre question ce matin. Sommes-nous encore des ouvriers dans la moisson? Pourquoi il y a si peu d'ouvriers? Que faire? Nous allons essayer de réfléchir au texte de ce passage en soulignant quatre points. D'abord, la moisson est grande, nous dit Jésus. La moisson est grande. Jésus ne nous dit pas qu'il faut chercher la moisson. Il y a des églises qui cherchent la moisson et qui pensent avoir trouvé la bonne stratégie pour faire venir les gens, pour moissonner. Jésus ne nous dit pas de prier pour la moisson. Les chrétiens prient pour le réveil et à force de prier pour le réveil, ils ne voient pas que la moisson est déjà là. Si nous ne moissonnons pas ce qui est déjà là, ce n'est pas quand il y aura un réveil que nous saurons moissonner. Jésus ne dit pas que le champ est vide. Jésus nous dit, comme il a dit à ses disciples quand il a rencontré la femme samaritaine, « Levez les yeux, ne dites-vous pas qu'il y a encore un peu de temps pour que les champs blanchissent. » Mais Jésus leur a montré que les champs sont déjà blancs. Quand il rencontre la femme samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4, il dit, vous dites que c'est pour bientôt. Mais non, l'heure est déjà là. Il y a 2000 ans que Jésus a dit cette parole. L'heure est là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est déjà là. La moisson est là. Nous vivons dans un temps de moisson. Ça ne dépend pas de ce que tu vois. Ça ne dépend pas de ce que tu penses. La première chose, me semble-t-il, ce que nous devons y croire. Est-ce que nous croyons que la moisson est là? Jésus a inauguré ce temps de moisson. C'est-à-dire qu'il y a une espérance. Ce que les prophètes ont labouré, ce que les prophètes ont répandu comme parole, ils ont ensemencé les cœurs. Ce que Jean-Baptiste a fait aussi comme laboureur, ce que Jésus lui-même a fait en ensemençant, il sait que cela lève et porte déjà du fruit. Et il dit la moisson est déjà là. Mes amis, beaucoup considèrent l'Occident comme un espace décadent culturellement, décadent spirituellement, comme un désert. D'ailleurs, je me souviens que lorsque je venais en France il y a 24 ans, on me disait « Tu vas dans un pays déchristianisé et désertique, aride. » On me disait qu'il n'y a que des cheveux grisonnants qui vont à l'église. On me disait « Tu vas voir, ils nous ont apporté leur religion, mais eux-mêmes n'y croient plus. » Et puis c'est vrai que je suis venu et j'ai fait ce constat. Effectivement, par rapport à l'Afrique, la population est plutôt vieillissante. la démographie est plutôt décadente. D'ailleurs, on nous parle de réarmement démographique. Il faut faire des bébés. Mais ça coûte cher, j'en ai 4, je sais ce que je dis. Mais je les aime, ça n'a pas de prix. Nous les aimons, je ne suis pas seul. Ça n'a pas de prix. Le problème avec cette vision, c'est qu'elle est exactement au même point où étaient les scribes et les pharisiens. C'est qu'elle nous amène à poser le regard ailleurs que sur ce que Jésus lui-même y voit. Elle nous amène à voir les manques, les moins, ce qu'il n'y a pas encore. Alors que Jésus ne voyait pas le contexte dans lequel il vivait comme un problème. Il y voyait une opportunité. L'opportunité de moissonner déjà. Jésus ne s'embarrassait pas de savoir si c'est hostile, si c'est désert, si c'est aride. Il dit, les champs sont déjà blancs. Est-ce que je sais reconnaître les champs qui sont déjà blancs? Est-ce que je sais saisir chacune des opportunités que le Seigneur me donne pour être un ouvrier de la moisson? Les gens pensent que le problème actuel de la France, de l'Europe, c'est un manque de spiritualité. Mais mes amis, c'est faux. Il n'y a pas de manque de spiritualité en France. Vous n'avez qu'à lire, aller à la FNAC ou à Cultura, voir la longueur des rayons consacrés à diverses spiritualités. Les spiritualités revisitées de l'Asie, du New Age, les spiritualités de la nature, les spiritualités du vide, les spiritualités du chamanisme. Il n'y a qu'à regarder les sondages sur le nombre de Français qui consultent au moins une fois par an des diseurs de bonne aventure, des voyants. Nos contemporains ont faim de sens. Nos contemporains ont faim de compassion. Nos contemporains ont soif d'authenticité. Nos contemporains ont soif de vie. Certes, ils sont devenus méfiants vis-à-vis des églises, mais dans leur cœur et dans leur famille s'expriment les mêmes cris et les mêmes besoins que dans nos propres familles. Nos compatriotes souffrent de cellules familiales explosées et ils cherchent des solutions à ces problèmes. Tant d'enfants grandissent sans les deux parents et cherchent des solutions à ce problème. Le problème n'est pas un manque de soif. Le problème n'est pas un manque de spiritualité. Le problème est un manque d'ouvriers. Un manque d'ouvriers engagés dans la moisson. C'est que trop souvent dans la société séculaire ou sécularisée, les enfants de Dieu qui y sont ne se comportent pas comme des ouvriers pour la moisson. Et notre problème, c'est que même dans nos églises, c'est-à-dire ici entre nous ce matin, beaucoup ne sont plus dans une mentalité d'ouvriers, mais nous sommes assis dans une culture de la consommation, dans une culture de l'épanouissement personnel, dans une culture où on cherche d'abord ce que ça va m'apporter à moi. Alors quand les ouvriers appelés par le Père deviennent des consommateurs, et non des consommateurs, ça vient tarir le peu d'ouvriers. Au sein de notre fédération, nous avons plus d'une centaine de pasteurs. Et nous savons que dans quelques années, la moitié du corps pastoral, on a 10 ans, et plus de la moitié du corps pastoral sera à la retraite. Et déjà en ce moment, nous avons des églises qui ont des locaux comme nous, qui ont des presbytères, pas comme nous, mais nous on peut loger un pasteur, c'est ce que vous faites, merci beaucoup. Qui ont de la trésorerie, mais qui n'ont pas de pasteur. En tant que président de la région, j'en connais la réalité. Au sein de notre fédération sud-est, nous prions pour des églises qui attendent depuis 1, 2, 3 ans parfois ailleurs en France, qu'on leur propose un pasteur. Des facultés de théologie sont en train de se vider et d'imaginer des nouveaux concepts de digitalisation de leurs cours. Parce qu'en présentiel, il y a de moins en moins d'étudiants et d'étudiantes. De moins en moins de personnes qui prennent le temps de se former bibliquement et théologiquement, d'investir dans cette dimension. Et donc, de moins en moins de pasteurs, de moins en moins d'implantateurs, de moins en moins de ministères diversifiés à proposer aux églises. Le problème, mes amis, est donc toujours le même. Mais pourquoi, c'est le point 2, les ouvriers sont peu nombreux? Je vais, de manière très inégale et aller rapidement, soulever 6 raisons qui ne sont pas exhaustives. Il me semble que l'une des caractéristiques de la société occidentale, c'est une force et en même temps une faiblesse, c'est que c'est une société qui a construit beaucoup sa compréhension de la société à partir de l'individu et de la promotion de l'individu. Alors c'est bien d'être une société qui élève l'individu, qui permet à l'individu d'être autonome et de se positionner comme un je pensant et autonome. C'est très bien. Moi, j'ai grandi dans un contexte où, avant de penser au je, on pense au nous. Où ce n'est pas la communauté qui doit être chamboulée, mais c'est toi qui dois entrer dans le logiciel de la communauté. C'est encore un autre extrême. Mais je pense qu'on est dans ce mouvement de balancier et donc dans une culture hyper individualiste et donc hyper centrée sur les individus, on perd un peu de vue la dimension collective de notre appartenance sociale. Et dans une culture communautaire, on perd de vue l'importance de l'individualisation. Donc, je ne veux pas idéaliser l'une ou l'autre. L'Évangile opère une synthèse bénéfique parce qu'elle ne nous propose pas un Dieu qui nous isole, mais un Dieu communion, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui nous incorpore individuellement, personnellement, mais dans une communauté, dans un collectif, dans une communion. Or, le problème, c'est que nos églises évangéliques, me semble-t-il, privilégient beaucoup une piété individuelle, personnelle, et peut-être ont un travers qui consiste à se limiter uniquement à annoncer aux uns et aux autres le salut en Jésus-Christ de manière personnelle. Et d'ailleurs, c'est ce que nous demandons à chacun, et nous l'avons vécu dimanche dernier, de reconnaître personnellement Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est juste. Sauf qu'une fois qu'on a trouvé Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, le risque est de considérer que moi je suis sauvé, tout va bien dans ma vie et ça s'arrête là. Une fois individualiste et centré sur le salut personnel. Je viens à l'église parce que j'ai besoin de l'église. Parce que je veux me faire du bien. Parce que ça m'apporte quelque chose. Et cette dimension individuelle ou individualiste devrait être, à mon avis, pondérée, corrigée par la nécessité de nous interpeller à voir le salut aussi dans sa dimension collective. Dieu ne veut pas nous sauver seul. Il n'a jamais dit qu'il nous sauve seul, mais il est en train de se former un peuple. Et à moins que je me trompe, on n'est pas un peuple seul. On est un peuple avec d'autres. Notre difficulté, c'est une sorte de conséquence de ce qu'on appelle la sécularisation, la séparation et la compartimentation des espaces, le privé, le public, le sacré, le profane. Il me semble que beaucoup d'entre nous n'intégrons pas la mission comme faisant partie de notre vie. Ma vie tout entière, et quelle que soit ma place dans la société, est une vie missionnelle. Et il me semble qu'en séparant beaucoup trop ces espaces, ces sphères, nous avons du mal à intégrer que nous sommes en mission, à la crèche, si mon travail c'est de m'occuper des enfants, je suis en train de remplir une mission. Et cette mission a quelque chose à voir avec ce que Dieu m'appelle à faire. Si je suis infirmier, médecin, balayeur de rue, que sais-je encore, je dois intégrer dans ce que je vis et dans ce que je fais cette dimension de la mission. Suis-je missionnaire ou démissionnaire? Un autre aspect, c'est la culture de ce que Blaise Pascal appelait, philosophe chrétien appelait, un peu le divertissement. C'est-à-dire que nous sommes dans une société aujourd'hui où ceux qui prennent la lumière ou ceux qu'on entend sont que des gens qui passent le temps à nous écarter des sujets de fond. Tous ceux qui font le buzz sur vos réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok et autres, qu'est-ce qu'ils ont apporté de décisif au monde? Il me semble que plus on fait, excusez-moi, des conneries qu'on se filme et on fait marrer la galerie, plus on a des vues. Et plus on tweet, on retweet, on refait suivre. Tous ceux qui font des pranks idiots, débiles à longueur de journée, ce sont ceux-là qui nous font scroller à l'infini nos téléphones. Mais qu'est-ce que ça apporte réellement par rapport à la mission? Nous sommes dans cette culture du divertissement. Dans cette culture où nous avons dépassé en quelque sorte les besoins primaires de sécurité, le frigo est rempli, la maison est chauffée, le canapé est disponible et on s'installe et on scrolle à longueur de journée. Et pendant ce temps, la moisson est négligée. Et ce problème nous concerne nous tous. Où sont les lieux où les chrétiens se saisissent encore des sujets de fond, même si ce sont des sujets entre chrétiens? Vous savez, quand j'avais 15 ans et que j'ai donné ma vie à Jésus, il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour entrer en discussion avec des chrétiens. On était là et on voulait comprendre. Qu'est-ce que Dieu enseigne vraiment? Peut-on perdre ou pas son salut? Les chrétiens en discutaient. Comment comprendre la prédestination? Est-ce que c'est contraire à l'évangélisation? On en discutait. La sanctification, elle est progressive, elle est définitive. On en discutait. Jésus, il revient quand? Avant le millénium, pendant, après? On en discutait. Mais aujourd'hui, quel type de conversation ont les chrétiens? De quoi parlons-nous, bien-aimés? De quoi parlons-nous? La Bible dit que de l'abondance du cœur parle la bouche. Quand j'écoute des conversations, même en église, quand j'écoute là où il y a les préoccupations fondamentales, je me dis, Seigneur, nous n'avons pas encore intégré ce qui est essentiel à la mission. Nous parlons très peu des sujets de fond. Nous sommes dans le divertissement. Trois autres raisons. Et parce que nous sommes précisément dans le divertissement, on se rend compte, et j'ai très vite vu cela quand je suis arrivé dans ce magnifique pays, que les églises consacraient 98% de leur énergie et de leur budget à leur propre conservation, à leur propre survie. J'ai été pasteur de toutes petites églises d'une vingtaine de membres à l'affaire. Cette église a payé mes études. Elle avait un presbytère de 3 étages dans lequel je vivais tout seul. Elle avait un temple, elle avait un appartement qui était loué. La ville a été sinistrée et aujourd'hui l'association est dissoute. L'église a vécu une belle mission, un beau ministère pendant plus de 100 ans. Mais à la fin, elle a disparu. Nous disparaîtrons si toute notre énergie est focalisée uniquement sur la conservation de notre propre existence. Alors l'église ne vit plus la mission, elle survit. Elle est préoccupée simplement par qui elle est. Et il me semble que c'est une erreur, parce que lorsque l'Église est préoccupée uniquement par sa propre survie, ça devient une Église qui n'envoie plus. Parce que pour envoyer, il faut accepter de se séparer, de dire qu'on envoie les meilleurs, faire grandir ailleurs. Alors je bénis le Seigneur parce que nous avons envoyé Quentin, nous voyons qu'il y a des églises qui envoient. Mais vous avez entendu, ils sont 17. Nous, on n'a pas besoin simplement de 17, on a besoin d'une 50aine et plus encore si on considère les nouvelles implantations. Sommes-nous une église concentrée sur, centrée sur elle-même ou centrée sur la mission? Je l'ai déjà dit rapidement, quand nous sommes centrés sur nous-mêmes et que nous ne voyons plus la mission, nous ne nous comportons plus comme des ouvriers, mais nous devenons des consommateurs, des dealers. J'apporte ça parce que l'Église m'apporte ceci. Si je n'y trouve plus mon compte, je m'en vais. Et mardi, c'est une petite parenthèse, on aura une réunion de conversation en Église. On parlera des nouvelles, des choses joyeuses, mais croyez-moi, on parlera aussi peut-être des choses qui fâchent. Cette compréhension Kleenex de l'Église. Je suis présent, je ne suis plus présent, je ne donne pas des nouvelles, et puis même je m'en vais, parce que je ne suis plus d'accord sur des choses mineures. Ça fait mal au cœur. Mais c'est le privilège du consommateur de choisir le menu, de choisir de participer, de prendre ou de ne pas prendre. Tous ces indices nous montrent à quel point est-ce que nous avons besoin de grandir en tant qu'ouvrier à la ressemblance du maître. Le maître nous dit de prier, nous allons y parler, ce sera le troisième point, mais la Bible nous met également en garde. Ça ne suffit pas de prier. Jacques nous le dit, vous priez, vous demandez, mais vous demandez mal. Et voilà pourquoi vous ne recevez pas. Nous demandons mal. Je demande mal. Je demande mal lorsque mes demandes ne sont centrées que sur mon petit monde à moi. Sur mon petit plaisir en moi. Et de ces méga-churches l'ont bien compris. Alors ils passent le temps à inviter des chrétiens. Alors on prie. Hein, la prière pour les visas, la prière pour les mariages, la prière de bénédiction, la prière de prospérité. Tout est prospérité. Jamais malade, jamais décédé, jamais dans un problème. Ce qui me rend fou, c'est qu'on nous compare à ces églises-là. Mes amis, j'ai une très haute considération du ministère pastoral. Et vraiment, je suis très désolé quand je vois et quand j'écoute les prédications de bon nombre d'églises qui affichent des milliers. Je peux vous assurer que c'est du divertissement pour beaucoup. Je le dis et je mesure la gravité de ce que je dis. Ce qui me déçoit le plus, c'est que je le sais, et la COVID l'a manifesté davantage, combien nous nous alimentons sur des prédications qui ne traitent pas le texte, qui ne vont pas dans le contexte historique, qui ne travaillent pas le contenu, mais qui ont des punchlines, qui nous font rigoler. Mais nous ne sommes pas édifiés sur la base des anecdotes et des blagues, mais sur la base du fondement solide et inaltérable de la parole de vérité. Amen. Le maître nous dit, la solution, elle ne viendra pas de nous tout seuls. Point 3, prier. Donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce n'est pas une formule, mes amis, la prière n'est pas une farce. La prière est une force. À une lettre près, ça change tout. On a écouté un témoignage d'une sœur, Nadine, qui nous disait dans son témoignage, « Avant, je considérais que ceux qui prient étaient des planqués. Mais j'ai découvert ce que Dieu fait à travers la prière. Je suis miraculé. » Si Jésus nous invite à prier par rapport aux ouvriers, ben c'est que justement cette prière va orienter nos cœurs vers ce qui est sur le cœur du Père. Ce que le Père a encore sur son cœur aujourd'hui quand il te voit, quand il me voit, c'est l'appel qu'il nous a adressé pour le monde et par amour. Prier m'aligne à la volonté du Père. Prier me met dans un processus de rechercher ce que Dieu veut. Et nous prions et nous disons bien que ta volonté soit faite. Prier me fait entrer dans ce consentement que ce qui doit être décisif, c'est la volonté du Père. Donc prier reconfigure mes priorités. Prier reconfigure ma vision du monde, ma vision de l'Église, ma vision du service. Prier me fait grandir dans la ressemblance du Seigneur qui me dit de prier. La prière me rappelle également que l'Église, que la moisson, que tout ce que j'ai ne m'appartient pas. Prier le maître de la moisson. Ce n'est pas nous qui provoquons la moisson. Ce n'est pas nous qui décidons de la moisson. La moisson est déjà là, mais la moisson ne nous appartient pas. On dit souvent que les cimetières sont remplis de personnes indispensables. Eh bien, il y a bien de gens aussi dans l'Église qui peuvent l'apprendre. Pardon, c'est un peu trivial. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus qui a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. » L'Église ne va pas s'arrêter parce que tu t'arrêtes. La moisson ne va pas pourrir parce que tu ne veux pas être ouvrier. La moisson a un maître. Et ce maître, c'est le Dieu de l'univers. Il ne perd rien de ce qu'il veut, vraiment. Alors ça m'enlève un poids, à moi aussi et à chacun de nous, ça devrait nous enlever un poids. Il ne s'agit pas d'y aller avec culpabilité. Il ne s'agit pas d'y aller par nous-mêmes. Mais il s'agit de dire, Père, c'est ta moisson. C'est ton œuvre. Ce sont des vies pour toi. C'est toi qui les as données. C'est toi qui les as créées. Fais ce que toi seul, comme on le chante souvent, fais ce que toi seul sais faire. Parce que la prière permet que je reste à ma place et que je remette Dieu au centre du jeu. Ce n'est pas moi qui peux changer une église. Ce n'est pas moi qui peux apporter à une église ce qu'elle cherche vraiment. Mais le Seigneur, oui, il sait les cœurs, il sait les vies et lui, il peut le faire. La prière change les dispositions de nos cœurs et élargit notre horizon. Parce que la prière n'est pas un monologue. Vous savez, quand nous nous tenons en prière, nous entrons en dialogue avec le Seigneur par son Esprit Saint. Et le Seigneur travaille nos cœurs. Le Seigneur nous montre là où nous en sommes. Le Seigneur nous accompagne. Le Seigneur nous montre, il commence à nous révéler même peut-être des choses qu'on ne voulait pas voir. Des besoins ou des situations qu'on ne voulait pas voir. Je me souviens un jour, je priais le Seigneur. Je ne savais pas qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie. Je n'avais pas de réponse. Et j'ai eu besoin d'être aidé par un autre frère. J'avais sollicité son écoute. Et dans ce temps d'écoute, il a pris le temps de me poser des questions sur mes souffrances à moi. Et il m'a aidé à réaliser qu'en fait, toutes les souffrances et les injustices vécues, y compris au sein de l'Église comme pasteur, avaient fini par verrouiller mon cœur, par m'endurcir. Et je ne supportais plus une seule plainte. Et j'ai eu besoin de dire au Seigneur, ce n'est pas ton œuvre. Tu as dit, je leur donnerai un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. S'il te plaît, Seigneur, brise ce cœur de pierre. Redonne-moi un cœur de chair. Un cœur qui peut pleurer avec ceux qui pleurent. Un cœur capable d'entendre la moindre des plaintes, même si je ne la comprends pas. Un cœur capable à nouveau de supporter la médisance, l'indifférence, le mépris, mais aussi d'accueillir l'encouragement, la bénédiction. Donne-moi un cœur qui t'aime. Et il y a une prière dans la Bible pour ça, n'est-ce pas ? Un homme a prié ça avant nous. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Commence en disant, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur la bonne voie et conduis-moi. Et conduis-moi. Voilà ce que fait la prière. Elle permet à Dieu, non pas qu'elle permet au sens, je parle là à la manière d'homme, Dieu est souverain. Mais il ne fait pas de nous des marionnettes. Nous nous tenons devant lui et nous ouvrons la porte et nous disons, Seigneur, sonde-moi, regarde-moi, je consens et montre-moi si je suis sur la bonne direction. J'aimerais conclure en nous donnant encore trois applications de comment j'entends cette parole aujourd'hui. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur nous dit, prions pour qu'il y ait des ouvriers. Redevenir des ouvriers, c'est la vocation de chacun. J'ai commencé mon propos en disant que chacun de nous a une vocation. Le protestantisme, depuis les réformateurs, que ce soit Luther, que ce soit Calvin, a contesté cette vision du Moyen Âge qui consistait à faire de l'idéal de la vocation la vie monacale, c'est-à-dire aller dans les monastères, se couper du monde, se retirer. Le protestantisme l'a contesté. Et l'une des contestations que le protestantisme a fait valoir, c'est que toute la totalité de l'Église, les enfants de Dieu, sont tous participants au ministère du Christ à travers ces trois offices. Également prêtres, rois, prophètes. Et qu'il n'y avait pas deux états dans l'Église. Il n'y a pas d'un côté le clergé, les ecclésiastiques, comme on disait d'autre fois, et de l'autre côté le peuple profane. Que Dieu ne peut pas accepter de se couper de plus de 80% de son peuple parce que le clergé ne représente pas la totalité. Et le protestantisme ne reconnaît pas de clergé. Le pasteur n'est pas un clerc. Alors Luther a d'ailleurs traduit par Beruf en allemand la notion de vocation qu'il rapprochait donc de Arbeit, du travail, mais la distinguant un peu, à dire que chacun de nous doit comprendre toute sa vie chrétienne est une vocation. Le boulanger, parce qu'il se lève le matin et parce qu'il prépare le pain et nourrit une population, est en train de faire quelque chose que Dieu bénit et que Dieu aime. Et il doit gagner sa vie pour ça, puisque l'ouvrier mérite son salaire. Le banquier, le médecin, l'instit, le balayeur, le technicien agricole, la nounou, que sais-je encore? Pardonnez-moi si vous ne vous retrouvez pas dans ces catégories professionnelles, mais retenez tout simplement que tout travail honnête, nous disent les réformateurs à travers Luther, Calvin, et de manière constante, tout travail honnête et tout service du prochain est une vocation. C'est une réponse à un appel que Dieu adresse. Donc la question n'est pas ce matin de savoir si tu es dans ta vocation. La question est de savoir si tu as conscience et si tu habites ton travail comme un cadre vocationnel. Si tu habites ta famille comme un cadre vocationnel. Si tu habites partout où Dieu t'a posé, t'a planté comme étant dans un cadre vocationnel. Dieu nous aime, Dieu nous a appelés, et partout où Dieu nous a établis, positionnés, là devient le cadre dans lequel il veut que nous exercions notre vocation. Et pour finir, nous avons chanté que nous ne voulons rien d'autre que de nous appuyer sur le Seigneur Jésus, rien que le sang de Jésus. Et là aussi, il est important de se rappeler que tout est grâce et rien ne vient de nous. L'apôtre Paul a enseigné les chrétiens en disant que chacun de nous a reçu au moins un don qui le met au service. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes tous appelés à être des ouvriers dans la moisson de Dieu. Alors chacun selon sa saison de vie. La vocation n'est pas un programme figé. La vocation, c'est un cheminement. Et aujourd'hui, nous découvrons des nouvelles vocations. Vous avez vu Vadim Kosiabou, après 30 années dans le monde de l'entreprise, il a accepté de devenir pasteur. Il fait son proposanat à Nice. On a vu le témoignage de Quentin, des parcours là aussi différents. Après s'être formé et avoir commencé à travailler comme technicien automobile, le voilà en train de cheminer dans une formation biblique et théologique. Dieu saura les guider. Mais nous ne sommes pas seuls dans ce chemin. Beaucoup de personnes se posent la question, mais est-ce que je suis vraiment dans ma vocation? Appuie-toi sur le Seigneur, mais appuie-toi également sur l'Église. Souvenez que quand on lit le livre des Actes des Apôtres, ça m'a toujours frappé. Ils priaient ensemble et l'Esprit Saint dit à l'Église, mettez un tel et un tel à part pour l'œuvre à laquelle je l'appelle. Est-ce que je considère le discernement de l'Église sur mes choix de vie? Est-ce que je considère que c'est une bénédiction d'avoir des frères et sœurs à qui je peux partager vraiment mes doutes, mes tâtonnements, ma quête d'un chemin? Est-ce que je crois que Dieu peut les utiliser pour m'aider à trouver là où il est en train de me conduire? Je crois que l'Église a vraiment cette responsabilité d'aider chacun à être aligné à sa vocation. La vie chrétienne est une vocation. Alors, les amis, le cri de Jésus est toujours d'actualité. C'est la dernière slide. Le cri de Jésus est toujours d'actualité. Et il faut l'entendre ce matin comme un appel d'amour, un appel à manifester la tendresse de Dieu à notre monde. Peut-être que cet appel ce matin a été un peu rude, mais ma promesse, c'est de donner confiance à chacun de nous. Il n'y a pas que les pasteurs, il n'y a pas que ceux qui vont faire théologie. L'Église a besoin d'une diversité de dons, de ministères, de talents. Il n'y a pas que le modèle temps plein. Il y a des étapes qui peuvent être des étapes intermédiaires. Pour certains, c'est 10%, 20%, un mi-temps. Aujourd'hui, on découvre parmi les cursus de pasteurs ce qu'on appelle les bivocationnels. Être capable d'avoir un pied dans l'entreprise et un pied au service de l'Église, ce n'est pas facile. Mais il y a tellement de possibilités. Moi, quand je suis entré en formation théologique, j'ai dû laisser tomber tout ce qu'il y avait et tout ce que je désirais faire derrière. Mais la réalité, c'est que nous n'étions même pas enseignés sur d'autres possibilités. On avait deux modèles vocationnels, le pasteur et le missionnaire. Et le missionnaire, de préférence, en allant quelque part au fond du monde. Ça existe toujours, ce n'est pas un problème. Sauf que ce n'est pas toute la palette des vocations. Peut-être que si on t'avait dit que infirmier c'est une vocation, peut-être que tu ne vivrais pas tes heures d'infirmerie de la même manière. Peut-être que si on te dit que banquier c'est ta vocation, peut-être que tu seras en paix par rapport à ça. Peut-être si on te dit que enseignant c'est ta vocation. Peut-être si on te dit graphiste c'est ta vocation, mécanicien c'est ta vocation. Nous sommes appelés là où Dieu nous a équipés, là où Dieu nous a placés, à donner le meilleur de nous. Vous savez, j'ai toujours, et je vais le dire quand même, en tête cette étape de l'écriture, Exode 25, je pense, de mémoire, ce n'est pas dans mes notes, quand Dieu donne à Moïse la vision du tabernacle, avec tous les plans. Et puis, il lui dit, il y a un tel, Betsael, que j'ai équipé, outillé, et qui excelle dans toutes sortes d'ouvrages, manuels, orfèvrerie. Dieu, comme Quentin l'a dit, équipe ce qu'il appelle pour sa mission. Tout ce qu'il vous a donné de vivre et d'expérimenter dans votre vie professionnelle, dans votre vie tout court, il va s'en servir dans son église, dans le voisinage, dans le monde. Il est meilleur que Lavoisier qui a dit que rien ne se perd. Hein? Et tout ce... Hein? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ah, Lavoisier, le créateur du monde est encore meilleur. Non seulement il crée tout, mais il s'est transformé également toute chose à sa gloire. Alors je te laisse avec cette question en réflexion. Puisque la moisson est toujours grande et que le maître appelle toujours des ouvriers et qu'on va prier maintenant pour celles et ceux qu'on a vus à la vidéo, la question c'est, et si le prochain c'était toi ?